7h47 sur France Culture. Vous le savez maintenant, la fabrique médiatique s'est renouvelée après ces deux mois d'arrêt pendant lesquels tous les regards étaient tournés vers un seul sujet. Nous avons eu envie de changer quelque peu la formule pour l'adapter à ces temps inédits, de proposer chaque semaine un regard singulier en se plaçant non pas du côté de celles et ceux qui fabriquent l'information, mais de celles et ceux qui la reçoivent, qui la lisent, qui la regardent, qui l'écoutent. Pour notre invité du jour, par exemple, ausculter les médias et même un métier, Alexis Lévrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien du journalisme, vous êtes maître de conférences à l'Université de Reims et chercheur associé au CELSA. Est-ce que pour l'historien des médias, cette période a été du pain béni, même si j'ai un petit peu de mal à dire comme ça, évidemment. Enfin, est-ce que vous n'avez fait que travailler, au fond ?
Oui, je crois que tous les spécialistes des médias ont vu dans cette période à la fois quelque chose de très choquant, de très difficile, et puis quelque chose de très intéressant, parce que c'est à la fois très singulier. Il n'y a pas d'exemple comparable dans les décennies précédentes, peut-être même dans les siècles précédents, mais en revanche, c'était un sujet d'étude absolument passionnant, il faut le reconnaître.
Vous dites que c'est un sujet qui n'a pas eu de précédent. Ça vous a fait malgré tout penser à un autre moment de l'histoire, je ne sais pas, avec en particulier ce rôle des médias en temps de crise ?
Oui, alors il y a des crises, il y a même des crises sanitaires. On peut penser à l'épidémie du sida, mais ce n'est pas la même chose, c'était beaucoup plus étalé dans le temps. On peut penser à Tchernobyl. Moi, là, pour le coup, ça m'a pas mal rappelé Tchernobyl et les premières comparaisons que j'ai faites, que d'autres ont fait porter là-dessus. On peut comparer à des crises militaires. On sait que le président Emmanuel Macron lui-même s'est situé sur ce terrain-là. Il a multiplié les comparaisons avec la guerre et notamment avec la Première Guerre mondiale, sans doute influencé par son directeur, son responsable de communication, qui est Joseph Zimet, et qui était quelqu'un qui était chargé des célébrations de la fin de la Première Guerre mondiale, enfin du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et on sait que le président a, dès le 12 et le 16 mars, multiplié les références à la guerre. Donc il était logique, du coup, de comparer le traitement médiatique de cette période avec celui qui avait été fait pour des guerres récentes ou pour la Première Guerre mondiale, puisque le président lui-même s'était situé sur ce terrain-là. Mais à chaque fois, on constate que ça n'est pas exactement la même chose et qu'on a vécu une crise très singulière, avec notamment la notion de confinement, qui renvoie alors à des crises, c'est une solution médiévale, hein, donc on pourrait comparer ça aux pestes médiévales, mais la peste n'existait pas à l'époque. Donc c'est vraiment très singulier et très très intéressant de ce fait du point de vue de l'observateur.
Est-ce que vous y avez retrouvé les trois fonctions médiatiques que vous identifiez, Alexis Lévrier, à savoir la fonction pédagogique, la fonction pratique et la fonction critique des médias en temps de crise ?
Oui, et je trouve d'ailleurs, les journalistes aiment bien battre leur coulpe et ils ont raison, hein, ils pratiquent beaucoup l'autocritique, mais en l'occurrence, je trouve que ces trois fonctions ont été bien remplies et elles ont bien été remplies d'emblée. La fonction pédagogique, on l'a vu très vite, les journalistes, sur le support papier, mais dans les médias audiovisuels également, ont expliqué les gestes barrières, ont expliqué les enjeux du confinement puis du déconfinement. La fonction de proximité, de médiation de la presse a été également très bien remplie. Avec parfois des choses très concrètes. On a vu que la presse écrite était très menacée dans ses réseaux de distribution, dans sa proximité donc immédiate avec le lecteur. On a donné des listes de commerces ouverts, des conseils pour fabriquer un masque. On a parfois livré des masques avec le journal. On a relayé des messages aux soignants. On a vu que les radios aussi, qui ont connu des audiences en très forte hausse, ont su restaurer un lien avec les auditeurs, dont beaucoup étaient fragilisés parce qu'ils étaient confinés, parce qu'ils étaient isolés. Et la médiatrice de Radio France disait qu'on avait la consécration d'un lien avec l'auditeur parce qu'on a privilégié ces moments de témoignage des lecteurs, des auditeurs en l'occurrence. Et la fonction critique, c'est là que j'étais le plus inquiet, parce que si on compare avec les crises antérieures, très souvent, et ça vient parfois du public lui-même, on intime l'ordre aux journalistes de suspendre leur jugement critique au nom de l'unité nationale. Et lorsqu'elle fait ça, la presse se discrédite elle-même, et il faut souvent des années, voire des décennies, pour retrouver sa crédibilité auprès du public. Et là, l'exemple de la Première Guerre mondiale qui a été invoqué par le président de la République est très intéressant, parce que pendant la Première Guerre mondiale, la presse écrite, qui était à l'époque, la presse française était la deuxième la plus puissante du monde, elle était la plus puissante d'Europe, elle avait des chiffres de diffusion qu'on n'a jamais retrouvés par la suite, mais elle s'est mise au service de la propagande nationale, de la propagande militaire, et elle n'a jamais retrouvé par la suite la relation de confiance et les chiffres de diffusion qu'elle avait. Si on pense à Tchernobyl, alors Ce qu'on a dit sur le nuage de Tchernobyl, c'est en partie surévalué parce que concrètement, il y a eu très peu de reportages qui à l'époque disaient que le nuage était arrêté aux frontières, comme on l'a. Il y a un mythe qui s'est créé autour de cela qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. Mais c'est vrai que la presse avait dans un premier temps relayé un discours officiel qui ne correspondait pas à la réalité. Et c'est la même chose pour la première guerre du Golfe, par exemple, puisqu'au moment de la première guerre du Golfe, on a relayé le mythe d'une guerre propre qui évidemment ne correspondait pas à la réalité. Et on aurait pu croire que dans cette période, la presse allait jouer ce rôle finalement d'accompagnement d'un discours gouvernemental. Et certains observateurs, certains journalistes parfois, au départ, sont allés dans ce sens-là. Heureusement, il y a des journalistes qui immédiatement ont renoué avec ce rôle critique. Je pense à Ariane Chemin, par exemple, qui a interrogé...
Dans Le Monde.
Dans Le Monde, un article qui a été très contesté au départ et qui maintenant fait référence, puisque dès le 16 mars, c'est-à-dire le jour où le président a annoncé le confinement, elle a interrogé Agnès Buzyn, l'ex-ministre de la Santé, et les déclarations d'Agnès Buzyn montraient l'impréparation de cette crise, puisqu'elle disait qu'elle avait préparé cette crise elle, de son côté, mais que finalement, elle avait signalé l'imminence d'une pandémie au président de la République, au Premier ministre, mais qu'elle n'avait pas été suivie, qu'elle n'avait pas été écoutée, puis ça renvoyait aussi à ses propres ambiguïtés. Pourquoi, à ce moment-là, avait-elle abandonné son ministère pour s'engager dans une campagne à Paris, alors qu'elle disait à Ariane Chemin que finalement cette élection n'aurait jamais dû avoir lieu. Je me rappelle qu'à ce moment-là, il y avait quelqu'un comme Roland Kayrol, par exemple, un célèbre politologue de grande qualité par ailleurs, qui a dit « Ariane Chemin n'aurait jamais dû dire ça, on est dans le temps du recueillement et puis Agnès Buzyn était sous le coup de sa défaite. »
Et il disait il y aura un temps de la critique, mais pour l'instant, on est dans le temps de l'élan collectif, de l'unité nationale.
Exactement.
Donc, en reprochant plus à Ariane Chemin d'avoir sorti ce papier à ce moment-là qu'à Agnès Buzyn d'avoir dit ce qu'elle avait dit, c'est ça ? Il l'a dit sur C'est dans l'air, je crois.
Voilà, c'était sur C'est dans l'air. Et on a vu par la suite que cette impréparation que traduisaient les déclarations d'Agnès Buzyn a été confirmée par les études très complètes qui ont été faites par la presse. Il y a eu des enquêtes qui, je pense, ont été utiles, ont été importantes. D'abord une enquête de Mediapart, c'était je crois le 2 avril, une enquête de Libération le 27 avril, puis une très longue enquête en plusieurs volets du Monde de Gérard Davé et Fabrice Lhomme du 2 au 7 mai. Et toutes ces enquêtes ont confirmé ce qu'avait dit Agnès Buzyn à Ariane Chemin, à savoir que cette guerre, puisque le président se situait sur ce terrain-là, n'avait pas été préparée. Il avait cité Clémenceau, le président, en disant « ils ont des droits sur nous à propos des soignants », et c'était une déclaration de Clémenceau à propos des poilus. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que nos poilus, pour poursuivre la comparaison, on les avait envoyés sur le front sans matériel, sans équipement, sans armes. Et du coup, d'ailleurs, on a vu qu'il y avait un retournement de l'opinion publique qui, au départ, était solidaire du président de la République et qui, après, est devenu très critique. L'une des plus critiques d'Europe, c'est dû au travail de la presse. Alors, c'est pas la critique pour la critique, mais c'est la critique au service de la vérité. Et je pense que ça, c'est une fonction de la presse qu'elle a parfaitement jouée dans cette période.
Donc, une fonction pédagogique, une fonction pratique, une fonction critique plutôt positive, à vos yeux, en tout cas, Alexis Lévrier. Qu'en est-il de la couverture médiatique autour du professeur Raoult, de la chloroquine? Est-ce que vous trouvez qu'en la matière, la presse a trouvé la bonne distance?
Là, je crois que, on manque encore de recul, mais on voit bien les problèmes qu'a eu la presse. Je dirais, à la fois, d'une manière générale, à l'égard du discours scientifique, on a vu beaucoup de scientifiques venir sur les plateaux télé et se tromper. Ils se sont collectivement trompés en annonçant, pour beaucoup d'entre eux, une grippette, puis en annonçant que la chloroquine était efficace, puis que d'autres médicaments pouvaient l'être, puis qu'aucun ne l'était. Il y a eu une confusion, mais c'est je crois, et je suis pas le seul à le noter, mais il y a une discordance entre le temps médiatique, qui surtout dans cette période, dans une période de crise comme celle-là, est fondé sur l'urgence, et d'autre part le temps scientifique qui lui est sur le long terme, et on sait que les vérités scientifiques, la découverte de ces vérités souvent jalonnées d'erreurs préalables. Et ces erreurs font partie de la construction des vérités scientifiques. Or là, dans cette période, les journalistes et leur public exigeaient des vérités immédiates. Donc il aurait peut-être fallu le dire davantage. Et pour le professeur Raoult, c'est un cas intéressant parce que lui, il utilise des méthodes qui sont celles des leaders populistes, très très clairement, il y a parfois des personnalités, des partis de gouvernement, on peut penser à François Bayrou en 2007, on peut penser à François Fillon en 2017, qui utilisent cette méthode, c'est-à-dire d'aller sur les médias mainstream et de choisir l'agressivité systématique, la contestation de ces mêmes médias mainstream. Et on voit bien que face à ce type de discours, les médias ont du mal à se situer, ont du mal à répondre. Et le professeur Raoult est très bien utilisé ce discrédit des médias, ou en tout cas cette critique très forte qu'il y a aujourd'hui des médias dominants, hein, dans le prolongement un peu de la crise des Gilets jaunes. Et il n'a eu de cesse d'humilier ses interlocuteurs à la télévision, tout en allant, alors il disait du mal de BFM, il disait du mal de LCI, il disait du mal des grandes chaînes, mais il allait sur ces grandes chaînes et il se confrontait aux journalistes de ces chaînes. Je crois qu'une des solutions, et malheureusement, visiblement, il refusait cette solution, aurait été de le confronter à des journalistes spécialisés, plutôt qu'à David Pujadas ou à Pauline de Malherbe ou à Rutel Krief. Et on l'a vu cette semaine.
Oui, justement, cette semaine, une journaliste scientifique était aux côtés de Rutel Krief.
Voilà, c'était Margot de Frouville, et je trouve que c'était très révélateur.
Face au professeur Raoult.
C'est ça, et elle accompagnait Rutel Krief, elle posait des questions très précises, et à chaque fois, l'attitude du professeur Raoult, qui était d'ailleurs, je trouvais, assez indécente, il y avait un manque d'élégance évident, il n'a eu de cesse de l'humilier, de lui couper la parole, chut, taisez-vous, l'interview est jalonnée comme ça de phrases destinées à lui clouer le bec, et je pense que c'est très révélateur, c'est de son refus de répondre aux questions précises de journalistes dont c'est le métier. Donc face à une personnalité comme celle-là, je crois que la réaction devrait être de lui opposer, de le confronter à des journalistes dont c'est le domaine de spécialité.
Alexis Lévrier, dernière question. On a le sentiment qu'on est en train d'en sortir, qu'on est à un tournant, même du point de vue de la couverture médiatique. On voit évidemment avec l'actualité américaine et française de ces dernières semaines que l'actualité liée à la Covid-19 a baissé d'intensité, mais aussi peut-être avec la reprise, le déconfinement. Est-ce que c'est une lassitude des médias ou est-ce que c'est une lassitude de l'opinion que les médias suivent? Est-ce que dans l'histoire, vous avez vu aussi ces moments de bascule médiatique, quoi.
Oui, ça peut expliquer d'ailleurs pourquoi des épidémies précédentes, on peut penser à la grippe espagnole qui a fait des centaines de milliers de morts après la Première Guerre mondiale.
Des millions même, je crois qu'on peut dire des millions.
Oui, on peut dire des millions, vous avez raison. Et on en a peu rendu compte en comparaison du traitement de cette épidémie de la Covid. On en a peu rendu compte à l'époque parce qu'on sortait d'une crise immense qui avait occupé l'opinion publique et on voulait passer à autre chose, qui peut tout à fait se comprendre. Et là, on voit bien qu'on a tous ce besoin, et c'est là encore, les médias ont tendance à donner au public ce qu'il a envie d'entendre ou de lire. Et donc là, on a envie de sortir de cela, c'est l'approche de l'été, on a envie de croire collectivement que cette épidémie est loin de nous. Et là, je crois que le devoir de la presse, c'est de continuer à faire une place à cette épidémie, même si on sait aussi que la presse a tendance à se focaliser sur un événement unique. En ce moment, c'est plutôt, et on en parlait là, vous en parliez avec Daniel Laferrière, c'est-à-dire les émeutes liées à ces questions raciales et cette émotion tout à fait légitime suscitée par le meurtre d'un homme noir aux États-Unis. Mais il ne faut pas, même si on a tendance à se polariser sur un événement unique, il ne faut pas oublier
le reste du monde et le reste danger, des actualités.
Et le danger d'une seconde vague dont on doit avoir tous conscience.
Merci beaucoup Alexis Lévrier, et je précise qu'un entretien en longueur est à lire sur le site de France Culture dès aujourd'hui, entretien avec vous.